Il est 8h. Et à 8h, c'est le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous et bonne fête à toutes les mamans. À la une de l'actualité, les élections européennes en un seul tour. Ouverture des bureaux de vote en ce moment en France métropolitaine. Les Français qui ont à faire le choix entre 34 listes pour élire leurs 74 députés, peut-être 79 en cas de Brexit. Scrutin européen également en Espagne, mais aussi régional et même municipal, notamment à Barcelone, où la candidature d'un certain Manuel Valls est loin d'arriver en tête dans les sondages. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête à Lyon pour tenter de retrouver la trace de l'auteur de l'attaque au colis piégé. La police a rendu public hier soir de nouvelles photos. Le Festival de Cannes et son palmarès. Cannes qui a pour la première fois décerné la Palme d'Or à un cinéaste sud-coréen. Nous nous intéresserons pour notre part au Grand Prix attribué à la franco-sénégalaise Mati Diop pour son film Atlantique. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard, au sommaire du tennis avec le coup d'envoi de Roland Garros et l'entrée en lice du Suisse Roger Federer, du rugby aussi avec la chute de Castres battue par Toulon dans le top 14 et le Grand Prix de Formule 1 cet après-midi à Monaco. Enfin à 8h20, la nature sera au cœur de votre entretien en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, le journaliste et écrivain Eric Fotorino. On va effectivement parler de la nature, mais on parlera aussi du succès de la presse papier et on parlera aussi même des maillots jaunes du Tour de France.
France Inter.
Jour de vote aujourd'hui en Europe, enfin pour tous les pays qui n'ont pas encore voté. Vote pour les européennes tout d'abord. Ainsi la France, où les bureaux de vote ouvrent en ce moment même, après ceux de l'Outre-mer, doit élire 74 eurodéputés pour Bruxelles et peut-être même 79 si le Brexit devient effectif. Regard et décryptage de ce scrutin qui, à l'image de l'Union européenne, reste quelque peu complexe et en tout cas marqué par des disparités nationales. Louise Baudet.
Première différence, on ne vote pas tous en même temps. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont ouvert le bal dès jeudi. L'Irlande, la République tchèque, puis la Lettonie, la Slovaquie et Malte ont pris le relais. Partout ailleurs, c'est pour aujourd'hui. Clôture du dernier bureau à 23h ce soir en Italie. Alors on n'élit pas non plus le même nombre de députés. Cela dépend de la population de chaque État membre. L'Allemagne, plus grand pays d'Europe, envoie 96 eurodéputés à Strasbourg, 6 seulement pour le Luxembourg ou Chypre. Une répartition amenée à changer si le Brexit a bien lieu. Bye bye alors les 73 eurodéputés britanniques, dont les sièges seront en partie redistribués. La France en récupérera 5, mais d'ici là, certains députés élus ce soir n'auront aucune certitude de siéger. Enfin, le mode de scrutin est le même pour tous, la proportionnelle, qui permet de refléter tout l'éventail des sensibilités politiques. Du coup, aucun groupe n'est majoritaire à lui tout seul, d'autant que les députés sont libres de leur choix. Pas de discipline de vote, le compromis est la règle, logique très différente de celle qui prévaut à l'Assemblée nationale française.
En ce qui concerne la France, donc, enfin plus particulièrement la métropole, les bureaux de vote viennent d'ouvrir pour refermer leurs portes entre 18h et 20h ce soir en fonction des communes. Les premiers résultats sont attendus à partir de 20h et 23h pour la tendance européenne, une fois que tous les bureaux auront refermé leurs portes. Petite précision encore, il faut que chaque liste, je vous le rappelle, qu'il y en a 34 en France, fasse au moins 5% des suffrages exprimés pour avoir un élu et 3% pour voir les frais remboursés. Soirée spéciale élection ce soir sur France Inter de 19h à 22h, soirée animée par Claire Servageon.
On rappelle que ces élections européennes sont à un seul tour et elles sont doublées dans certains pays d'autres scrutins régionaux ou même municipaux.
Oui, c'est le cas pour l'Espagne où nos voisins vont faire dans certaines régions le déplacement aux urnes pour les 3 scrutins en même temps. L'Espagne qui va focaliser l'attention des observateurs politiques avec son scrutin municipal de Barcelone, ville symbolique de la Catalogne où les indépendantistes espère bien prendre la mairie, ville où se présente également un certain Manuel Valls, l'ex-premier ministre français qui n'est guère donné favori dans les sondages. Une correspondance de Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon.
Il y a quelques jours, le président catalan Quim Torra a expliqué que la véritable capitale de la Catalogne ces dernières années avait été Gérone, la ville de Barcelone ayant refusé de donner son appui au processus d'indépendance. L'objectif numéro un des indépendantistes ce dimanche, c'est donc de conquérir la capitale. Barcelone, ville symbole, un défi qui paraît incertain. Les indépendantistes sont divisés. Pendant la campagne, Ernest Maragall pour Esquerra Republicana et Elsa Artadi pour Junts per Catalunya se sont déchirés. Ernest Maragall est certes en tête dans les sondages, mais talonné de très près par la maire sortante d'extrême gauche, Ada Colau, qui pourrait remporter la partie grâce à une possible alliance avec les socialistes. Quant à Manuel Valls, qui avait fait un pari risqué en venant à Barcelone, il semble très en difficulté, quatrième ou cinquième dans les derniers sondages. L'ancien Premier ministre français fait les frais de son engagement aux côtés de Ciudadanos, le parti centriste controversé qui a accepté de travailler avec l'extrême droite en Andalousie. Les électeurs de gauche à Barcelone risquent de ne pas le pardonner à Manuel Valls.
Sébastien Berriot, le reste de l'actualité à l'étranger en bref. En Grande-Bretagne, la course à la succession de Theresa May s'intensifie. 7 candidats se sont déjà déclarés pour succéder à la Première ministre britannique. Dernière candidature en date, celle de Dominic Raab, figure de la nouvelle garde du Parti conservateur. Et puis, une première rencontre annoncée entre des représentants du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son opposant Juan Guaido. Rencontre qui devrait avoir lieu la semaine prochaine à Oslo. Je vous rappelle que la Norvège s'est proposée pour assurer la médiation entre les deux parties.
Et puis à Lyon, la traque se poursuit pour tenter de retrouver l'auteur de l'attaque au colis piégé qui a fait 13 blessés vendredi après-midi.
Depuis, les autorités ont tout mis en œuvre pour retrouver la trace du principal suspect. La police a publié hier soir de nouvelles photos alors que les enquêteurs ont retrouvé une trace ADN et identifié l'explosif utilisé. Le point sur l'enquête avec vous, Emmanuel Leclerc.
C'est l'espoir numéro un pour l'instant des enquêteurs des services antiterroristes pour arrêter ce suspect qui s'est échappé après l'explosion de la bombe dans le cœur de Lyon. Espérer qu'un signalement permette de le localiser. Les enquêteurs en ont pour l'instant recueilli une dizaine, mais cela n'a pas permis de le localiser. Le souci, c'est que ces nouveaux clichés diffusés dans les médias et les réseaux sociaux montrent toujours un homme sur son vélo avec son short, avec cette fois malgré tout un sac à dos noir sur le dos, mais la tête est toujours très bien dissimulée. Du côté des experts de la PTS, la police technique et scientifique, on a réussi à isoler un ADN sur un morceau du sac qui contenait l'engin explosif, mais un extrait d'ADN qui, selon des sources proches du dossier, n'aurait pas encore parlé. Enfin, les enquêteurs ont également identifié assez rapidement des résidus de l'explosif utilisé et il s'agirait bien de TATP utilisé par le passé en France lors des attentats à Paris et en Belgique à Bruxelles.
Le recul semble se confirmer pour les Gilets jaunes. Le 28e samedi de mobilisation n'aurait enregistré que 12 500 manifestants selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont 2100 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Des chiffres contestés bien sûr par les organisateurs du mouvement qui eux parlent de 35 000 manifestants minimum.
Le 72e festival de Cannes, donc avec son palmarès hier soir, Cannes où pour la première fois un cinéaste sud-coréen a reçu la Palme d'Or.
C'est en effet Bong Joon-ho qui devient le premier cinéaste sud-coréen à recevoir la Palme d'Or pour son film Parasite, mettant en évidence ce fossé qui sépare les riches et les pauvres. L'autre grand favori de la compétition, l'Espagnol Pedro Almodovar, échappe une fois de plus et pour la 6e fois à cette distinction. L'autre consolation, son acteur Antonio Banderas remporte lui le prix d'interprétation masculine. A noter également la distinction de la franco-sénégalaise Mati Diop, couronnée du grand prix pour son premier long métrage, Atlantique, un film consacré au sort des migrants. Mati Diop au micro de Corinne Pellissier.
C'est beaucoup là, il se passe beaucoup de choses à la fois. Déjà le fait que le film ait été pris en compétition, c'était incroyable pour mon équipe et moi. Je l'assume, mais c'est beaucoup quoi. C'est mon premier long métrage, mais ça fait 10 ans que je travaille. J'ai réalisé 4 courts métrages, un moyen métrage, et je me suis pas dit tiens, je vais faire un film sur les migrants. C'est l'inverse. C'est déjà un film qui se passe dans le pays de mes origines, le Sénégal, un endroit que j'ai eu vraiment besoin de réinvestir et d'explorer d'un point de vue personnel et cinématographique. Et j'ai senti que j'avais la possibilité de raconter une situation, une histoire, des trajectoires précises, l'urgence de parler de ça. C'est magnifique, je me sens vraiment que mon film est entendu, compris, c'est très très important.
À noter enfin que le conte de fées continue pour Ladjli, que vous avez peut-être pu entendre juste avant ce journal. Le réalisateur de Montfermeil en Seine-Saint-Denis s'est en effet vu décerner le prix du jury pour son film Les Misérables. Allez, pour refermer ce journal, un hommage à toutes les mamans ce jour de la fête des mères. Un rendez-vous préparé parfois durant plusieurs semaines dans le plus grand secret par des enfants qui bénéficient bien souvent de la complicité des enseignants et parfois de leur papa. C'est le cas pour cette fillette de l'école élémentaire Guéry à Guéret, qui a rencontré Adrien Serrière de France Bleu Creuse.
Je vais faire un dessin, après je vais faire des bouquets de fleurs en avec des papier crayon. Et après, j'ai fait un poème et j'ai mis un petit cœur dessus.
Tu sais quoi le poème? Tu t'en rappelles un peu?
Ah, j'ai oublié. Je vais le revoir. Il est caché sur le canapé et on a un petit endroit pour ranger toutes les choses. Elle va jamais le trouver.
Et est-ce qu'elle se doute de quelque chose, ta maman, qu'elle va avoir un cadeau?
Elle se doute.
Mais tu n'as rien voulu lui dire?
Rien, c'est un secret entre mon père et moi.
C'est un secret.
Voilà, bonne fête en tout cas à toutes les mamans et tant pis pour celles qui recevront leur collier de nouilles, comme vient de le dire Patricia Martin. Bonne fête.
Pierre donc... Desproges le disait beaucoup mieux que moi.
Oui, c'est vrai. Bonne fête en tout cas à toutes nos mamans, y compris la mienne et celle d'Alain Baraton. Quant à nous, Eric, pour la fête des pères, il nous faudra attendre le 16 juin.
Exactement. Allez, on souhaite une bonne fête effectivement à nos mamans. C'était le journal de Serge Martin.